Téhéran a rejeté comme politiquement motivé un récent rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les droits de l'homme en Iran. Séisme en Afghanistan, plus d'une centaine de morts. Le Liban, la Syrie et l'Égypte ont signé un accord sur l'acheminement et le transport du gaz naturel vers le Liban à partir de l'Égypte via la Syrie et la Jordanie. C'était les principaux titres. En voici le journal. Téhéran a rejeté comme politiquement motivé un récent rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les droits de l'homme en Iran, affirmant que la République islamique d'Iran reste déterminée à promouvoir les droits de l'homme, indépendamment du fait que le rapport était basé sur de fausses allégations faites par des terroristes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré mardi 21 juin que l'Iran avait envoyé ses commentaires et arguments détaillés sur chaque paragraphe du rapport du chef de l'ONU à son bureau, mais que la réponse de l'Iran avait été malheureusement négligée. Le rapport est basé sur de fausses allégations et des documents basés sur des sources non fiables. Et par conséquent, le texte principal du rapport est principalement basé sur le contenu des allégations et des accusations de groupes hostiles et de sectes terroristes, a-t-il déclaré. S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, mardi 21 juin, la chef adjointe des droits de l'homme de l'ONU, Nada al-Nashif, a présenté le dernier rapport de Guterres qui critiquait vivement l'Iran pour les exécutions dans le pays et d'autres problèmes. Guterres a également affirmé que l'Iran avait utilisé des mesures coercitives contre les dissidents. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a expliqué que la République islamique d'Iran continue d'être pleinement engagée dans la promotion des droits de l'homme en raison de ses croyances religieuses et de ses obligations légales et prête à coopérer avec les organes des droits de l'homme de l'ONU. Il a déclaré que le rapport omet de mentionner la responsabilité de ceux qui sont à l'origine des sanctions anti-iraniennes et refuse de reconnaître les effets négatifs et destructeurs des sanctions américaines inhumaines contre le pays. Dans un communiqué publié mardi, le Haut Conseil judiciaire iranien pour les droits de l'homme a également critiqué la déclaration du chef de l'ONU affirmant qu'il s'agissait d'un non-reflet des développements et des réalisations du pays en matière des droits de l'homme. Il a déclaré que confier le mandat de compiler un rapport spécifique à un pays au secrétaire général sur les droits de l'homme, alors qu'il existe un mécanisme international expert à cet égard, est fondamentalement déraisonnable et illogique, ainsi qu'à la fois inutile et non professionnel. Pendant ce temps, Saïd Khatibzadeh a également qualifié une récente résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Iran de politiquement motivée et d'injuste. Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, de telles résolutions sont politiquement motivées, biaisées et injustes, a-t-il dit, ajoutant que la résolution n'était pas constructive et manquait de soutien de la majorité des États membres. Plus d'une centaine de personnes sont mortes lors d'un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi 22 juin, selon les autorités afghanes. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Certaines sources locales avancent déjà le chiffre de 150 décès. Nous appelons les agences d'aide à apporter une aide immédiate aux victimes du tremblement de terre afin d'éviter une catastrophe humanitaire, a tweeté le porte-parole du gouvernement, Bilal Karimi. Le séisme d'une magnitude 5,9 est survenu à une profondeur 10 km à 1h mercredi, 4h30 GMT, tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l'Institut sismologique américain. L'Afghanistan est fréquemment frappé par des séismes, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Indo-Kouch, qui se trouve à la jonction entre les plaques tectoniques eurasiennes et indiennes. Ces catastrophes peuvent être particulièrement ravageuses en raison de la faible résistance des maisons afghanes rurales. En Syrie, l'occupation américaine a fait passer 30 camions chargés d'armes et d'équipements militaires par le passage frontalier illégal al-Walid entre la Syrie et l'Irak vers ses bases illégales dans les provinces de Hasaké et de Deir ez-Zor. Ainsi, le nombre de camions que l'armée américaine a introduit en Syrie en 4 jours est passé à 136, sans compter un convoi militaire de 76 camions qui est entré jeudi 16 juin dans la province de Hasaké depuis la région autonome du Kurdistan irakien. Les forces américaines sont stationnées dans un grand nombre de bases militaires illégales dans les zones contrôlées par des forces démocratiques syriennes FTS, dans l'est de la Syrie, en particulier dans les provinces d'Orsaké et de Deir ez-Zor, riches en pétrole, en gaz, en ressources souterraines et en blé. Ces agissements de l'armée américaine surviennent quelques jours après que les armées russes et syriennes ont renforcé leurs positions dans les provinces de Asaké, de Raqqa et d'Alep avec des équipements militaires, des systèmes de défense aérienne, des blindés militaires et plus de soldats après l'escalade des menaces turques de lancer une nouvelle opération militaire dans l'est et le nord de la Syrie. Des sources bien informées à Asaké ont révélé que les FTS, appuyés par la coalition dirigée par les États-Unis, ont creusé un tunnel reliant le district de Sinjar, province irakienne de Ninive, à leur zone de contrôle dans la province syrienne de Asaké. Selon ces sources, les FTS ont transporté des militaires, des armes et du matériel militaire à travers le tunnel long de 12 km, notant qu'environ 300 blocs de béton ont été utilisés dans la construction du tunnel. Les sources ont indiqué que les FTS ont récemment envoyé un grand nombre de terroristes en Syrie via son tunnel après l'annonce par la Turquie de son intention de lancer une opération militaire pour contrôler les villes de Manbij et de Tal Rifat. Les zones sous le contrôle de l'armée américaine et des FTS connaissent une montée de la colère des habitants contre les actions des occupants. Malgré l'opposition de Damas à la présence des troupes américaines sur son territoire, les forces américaines sont stationnées dans plusieurs bases militaires en Syrie, dont les plus importantes se trouvent près du champ pétrolier d'Omar et du champ gazier de Conoco, à Deir ez-Zor et à Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie. Des médias irakiens ont fait état lundi 20 juin de la découverte et de la destruction de 6 cachettes des terroristes Daesh dans la province irakienne de Saladin. De concert avec l'aviation de l'armée irakienne, les forces de réaction rapide ont lancé une vaste opération à Wadi al-Mahassin, dans l'ouest du district de Tuzrul-Mato, pour nettoyer la région de la présence des terroristes Daesh. D'ailleurs, les unités de mobilisation populaire Hashd al-Shaabi, utilisant des drones et des caméras thermiques, ont nettoyé 160 km² de la zone désertique à la frontière saoudienne de la présence des terroristes afin d'assurer la sécurité des pèlerins lors des rituels du Hajj. Le Liban, la Syrie et l'Égypte ont signé mardi 21 juin à Beyrouth un accord sur l'acheminement et le transport du gaz naturel vers le Liban à partir de l'Égypte via la Syrie et la Jordanie. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Énergie du gouvernement libanais par intérim, Walid Fayyad, a dit que la signature de l'accord couronne un travail acharné mené par les trois pays durant 7 mois, qui est un exemple à suivre pour la coopération arabe. Fayyad a remercié la Syrie et sa direction pour avoir apporté toutes les facilités, surmonté les obstacles au niveau technique et juridique, facilité le processus de négociation et surmonté les obstacles. De son côté, le directeur général de l'établissement général du pétrole, Nabi Christine, a indiqué que la Syrie était et restera sous la direction du président Bachar al-Assad un soutien essentiel à toute véritable initiative arabe. Il a ajouté que la Syrie est prête à exécuter le projet et à faire passer au Liban sans retard le gaz égyptien via le gazoduc syrien pour assurer une partie des besoins du Liban frère. Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international FMI, Jihad Dazour, a discuté mardi avec de hauts dirigeants tunisiens de principaux volets du programme national de réforme lors de sa visite officielle dans le pays. Cité dans un communiqué de la présidence de la République tunisienne, le chef d'État Kais Saied a affirmé lors de sa rencontre avec M. Azour qu'il sera nécessaire de mettre en place de grandes réformes tout en prenant en considération l'aspect social. M. Saïd a expliqué que les droits fondamentaux de l'homme impliquaient également les droits à la santé et à l'éducation, qui ne sont pas soumis aux notions des profits et des pertes. Le président tunisien a considéré que la crise que traverse la Tunisie n'a pas uniquement pour cause la mauvaise gestion, mais le résultat de causes multiples devant être traitées et éliminées. Le mardi 21 juin, le commandant de l'armée de l'air allemande, le général Ingo Gerhardt, a déclaré que l'OTAN devait être préparée aux menaces nucléaires de la Russie, être en mesure de porter un coup pour dissuader la Russie. Pour une dissuasion fiable, nous avons besoin à la fois des moyens et de la volonté politique d'utiliser la dissuasion nucléaire si nécessaire, a déclaré le général allemand qui voulait dire ce qui suit. Les pays de l'OTAN devraient être prêts à utiliser des armes nucléaires si nécessaire, si la Russie devait frapper en premier. Commentant la possibilité que la Russie envahisse un État membre de l'OTAN, le commandant de l'armée de l'air allemande a ouvertement conseillé à Poutine de ne pas empiéter sur le territoire du bloc de l'Atlantique Nord. En particulier, Gerhardt a souligné que les Européens auront plus de 600 chasseurs modernes dans la région de la mer Baltique d'ici 2030. Il y a aussi des avions américains. Plus tôt, l'ancien conseiller britannique à la sécurité nationale, Peter Rickert, avait déclaré qu'il était probable que Poutine envisageait une frappe sur une base de l'OTAN pour couper les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Alors que la Russie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'intention d'utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine, l'ancien membre du Parlement européen et ancien ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslav Sikorski, a déclaré que l'Occident pourrait fournir à l'Ukraine des armes nucléaires pour se défendre contre la Russie. L'Occident a le droit de donner des ogives nucléaires à l'Ukraine afin de maintenir son indépendance, a déclaré Radoslav Sikorski, député européen et ancien ministre polonais des Affaires étrangères, à Espresso TV en Ukraine. M. Sikorski prétend aussi que la Russie a violé les accords de Budapest en vertu d'un document de 1994 signé par l'Ukraine, la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Kiev a accepté de rendre son ancien arsenal nucléaire de l'ère soviétique et les signataires se sont engagés à respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières existantes de l'Ukraine. Alexei Zaitsev, directeur adjoint du département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, a quant à lui récemment démenti une prétendue intention russe d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine, qualifiant de fausses les allégations avancées par les alliés occidentaux de Kiev. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Enrichissement. L'Iran renversera-t-il la table? L'Iran s'apprête à utiliser des centrifugeuses de pointe IR-6 dotées de dispositifs qui permettent de passer plus facilement d'un niveau d'enrichissement à l'autre, dit un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IOA. Selon le rapport de la IOA, l'Iran a informé l'agence viennoise qu'il avait entamé les préparatifs du processus d'enrichissement, mais Téhéran n'a pas précisé le niveau d'enrichissement visé. L'Iran avait précédemment informé la IOA que les deux cascades IR-6 pourraient être utilisées pour un enrichissement jusqu'à 5 ou 20% de pureté. En réponse à la résolution du Conseil des gouverneurs, l'Iran a ordonné le retrait des caméras de la IOA installées après que l'Iran l'a permis en guise de bonne volonté et au-delà de ses obligations, mieux dire en dehors des accords de garantie signés avec la IOA dans le cadre de l'accord multilatéral de 2015, et a poursuivi l'installation de centrifugeuses IR-6 dans l'usine Natanz où l'accord lui permet d'enrichir. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé dans un rapport confidentiel aux États membres que l'Iran avait annoncé que la désactivation de la cascade IR-6 de l'installation de Fordo avait commencé dimanche 19 juin, un processus qui précède l'enrichissement ainsi que l'introduction du F-6 dans véhicules. Il est important de noter que la cascade de 166 centrifugeuses installée à Fordo, un site souterrain creusé dans la montagne, est la seule à avoir ce que l'on appelle des sous-en-têtes modifiées, qui facilitent le passage à l'enrichissement vers d'autres niveaux de pureté. Avance toujours le rapport de la IOA. Jeudi dernier, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions aux entreprises chinoises et émiraties et à un réseau d'entreprises iraniennes qui aident, selon eux, à exporter des produits pétrochimiques iraniens. À en croire les médias mainstream, la décision des États-Unis visait à accroître la pression sur Téhéran pour relancer l'accord sur le nucléaire de 2015, en agonie depuis le retrait unilatéral des États-Unis de ce pacte historique en 2018. Les États-Unis poursuivent la voie d'une diplomatie significative pour parvenir à un retour mutuel au respect du plan d'action global conjoint, avait dit après la réimposition de nouvelles sanctions Brian Nelson, un haut responsable du département du Trésor américain, dans un communiqué. En l'absence d'accord, nous continuerons à avoir recours aux sanctions pour limiter les exportations de produits pétroliers et pétrochimiques en provenance de l'Iran, a-t-il dit. Le directeur général de l'AIOA, Raphaël Grossi, a récemment, quant à lui, affirmé que les pourparlers de Vienne étaient dans une impasse. Réagissant aux évolutions contre-productives et pourtant sans surprise de la partie d'en face, l'AIOA, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a déclaré que Téhéran s'était pleinement acquitté de ses obligations au titre de l'accord de garantie et que les allégations sur une prétendue ambiguïté concernant les activités nucléaires iraniennes, alimentées par les sources israéliennes, et une hystérie politique qui s'est emparée du régime de Tel Aviv n'avaient aucun fondement juridique.